Alain Gresh, bonjour, bienvenue à
Bonjour.
Xbox. Bonjour, ça fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et
Merci de
puis,
m'inviter.
oui, ben, effectivement, j'ai vu que vous n'étiez pas forcément, comment on dit, un peu persona non grata sur les médias traditionnels. J'espère que ça va changer. De toute façon, l'histoire va vous donner raison, c'est-à-dire l'histoire de la critique. Qu'on peut porter sur la situation, notamment en Palestine. Et d'ailleurs, ben, pour rester sur l'actualité, avant peut-être d'explorer d'autres facettes de votre expertise, hein, vous êtes journaliste, ancien rédacteur du chef du monde, en chef du Monde diplomatique. Vous êtes fondateur et directeur aussi de plusieurs médias, Orient 21, Afrique 21. Là, certaines nations qui refusaient de le faire depuis bien des années ont reconnu. Donc, l'État palestinien. Donc, ma première question, c'est une ouverture là-dessus. Y a-t-il un changement? Est-ce que, se rendant compte de la gravité des choses, c'est plutôt mon avis, certaines nations se lavent un petit peu les mains en disant, oh, regardez, on reconnaît la Palestine, on est coupable de rien. Voilà. Comment faut-il repositionner ces différentes reconnaissances qui a eu lieu hier pour la Grande-Bretagne, aujourd'hui pour la France et d'autres nations?
Écoutez, c'est un petit pas quand même, puisqu'ils ne l'avaient pas fait jusqu'à présent. C'est la première fois qu'autant d'États européens occidentaux reconnaissent l'État de Palestine, y compris donc trois membres du Conseil de sécurité. Je crois que ce n'est pas rien. En même temps, par rapport aux enjeux actuels, c'est quand même un peu, j'allais dire, dérisoire. Je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais. Je veux dire, on assiste en direct à un génocide à Gaza qui dure maintenant depuis 2 ans, que beaucoup de ces pays, dont la France, ont soutenu pendant des mois et des mois au nom du soi-disant droit d'Israël de se défendre. Et je dirais, la priorité, avant même de penser à la solution 2 États, un État, etc., c'est d'arrêter le génocide. Et pour arrêter le génocide, il ne suffit pas de reconnaître l'État de Palestine. Notre correspondant à Gaza, le correspondant d'Orient 21 à Gaza, Rami Abou Jamous, a fait un article ce matin pour dire qu'on allait reconnaître des morts, on allait reconnaître des victimes. Donc il faut arrêter la folie meurtrière israélienne. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen qui peut être efficace, c'est celui des sanctions. Alors, on peut se réjouir que des pays comme la Belgique, comme l'Espagne aient commencé à prendre des mesures sérieuses, mais il faut effectivement l'étendre et il faut en particulier que l'Union européenne prenne des sanctions. Quand on voit le nombre de sanctions qui ont été adoptées contre la Russie, je veux dire, on se dit quand même qu'il y a quand même un deux poids deux mesures qui frappe tous les observateurs internationaux et qui crée aussi un fossé entre le discours occidental sur les droits humains, sur la liberté, l'égalité, etc., et la réalité de la pratique occidentale qui est en fait d'avaliser un génocide.
Pour moi, même un parti pris au-delà d'un poids, deux mesures, voilà, c'est de se dire ben, il y a eu un choix hein, des gouvernements qui ont été pris de défendre le sionisme et puis l'établissement aux dépens des Palestiniens d'un État israélien. Et dans ce cadre-là, effectivement, on parlait de sanctions tout à l'heure. Quelles sanctions exactement? Donc, moi, j'imaginais qu'il y avait des choses très simples qui devaient être prises assez rapidement, comme l'expulsion des ambassadeurs, par exemple, ou le retrait des ambassadeurs, par exemple, suisse, de l'ambassadeur suisse en Israël, etc. Enfin, diplomatique. Ensuite, évidemment, des sanctions rapides sur le matériel militaire. Forcément, il semblerait que là, il y ait beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais que finalement, les flux de transferts militaires continuent à se faire. Et puis après, il y a le troisième plan, c'est celui de l'économie, c'est-à-dire des échanges marchands qui, là aussi, à mon sens, devraient être totalement bloqués rapidement. C'est bien de cela dont on parle quand on parle de sanctions.
Enfin, il y a, je dirais, une panoplie de sanctions. Je ne veux pas faire une liste. Je veux dire, chaque État peut le faire. Ce qui est important aussi, c'est de voir. C'est-à-dire, certaines sanctions sont difficiles à imposer dans le cadre de l'Union européenne parce qu'il faut une unanimité ou une majorité qualifiée, mais certaines sont possibles. Et puis, chaque État peut prendre des mesures. Comme vous dites, la priorité, c'est l'aide militaire. Alors, les grands pays fournisseurs d'Israël, à part les États-Unis, c'est l'Allemagne qui a commencé à prendre un certain nombre de mesures. Mais il y a toute une série de collaborations militaires qui passent un peu sous les radars et qu'il faudrait arrêter. Et ça me semble très important. Les mesures économiques, je dirais, il faut rappeler que l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc, il y a des possibilités de prendre des mesures qui touchent vraiment Israël, et y compris sa population. Ces sanctions, elles ne visent pas que Netanyahou, elles visent aussi une population qui avalise ce génocide, qui est à 80% et pour l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Il faut que, d'une certaine manière, le rapport de force est tellement différent, tellement déséquilibré entre Israéliens et Palestiniens, que s'il n'y a pas des sanctions fortes sur Israël, il n'y aura pas d'évolution. Si la population israélienne pense qu'elle peut commettre un génocide et rester impunie, il n'y a rien qui bougera. Les sanctions économiques sont possibles, et puis il y a toute une série de choses qui se font, pas forcément des gouvernements d'ailleurs. C'est de plus en plus difficile pour un certain nombre d'universités israéliennes de collaborer avec des universités européennes. Il y a toute une série de mesures qui sont prises qui rendent difficile. On voit bien les manifestations qui ont lieu dès que des Israéliens sont dans des stades de stades de football ou participent à des compétitions sportives. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais il faut effectivement que les gouvernements donnent l'exemple. Et un des exemples qui me semble quand même le plus extraordinaire, c'est que ce gouvernement israélien, il faut le rappeler, il est dirigé par quelqu'un qui est inculpé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pendant très longtemps, l'Europe s'est présentée comme le parangon de ces droits humains, de la défense de la justice internationale. Et aujourd'hui, on voit que, par exemple, le gouvernement français n'est pas très clair sur le fait de savoir si on arrêterait Netanyahou s'il venait en France, ou quand il survole le territoire français, on le laisse survoler comme si de rien n'était. Donc là aussi, il y a des mesures qui sont possibles, et il faut faire pression. Et bon, c'est vrai que l'une des choses qui a pressé le changement de ces gouvernements européens, c'est l'évolution de l'opinion publique. Il y a aujourd'hui, les sondages le montrent, un grand appui, une grande colère face à ce qui se passe à Gaza, les images qui nous arrivent, etc. Je crois que ça, c'est très important, et il faut continuer à faire pression pour aller beaucoup plus loin que la reconnaissance diplomatique.
Il semblerait même que j'avais entendu 47% de la population israélienne soit d'accord avec le fait de tuer toutes les femmes, tous les enfants.
Il y a une population qui vit dans un état d'hystérie guerrière qui est effrayant, quoi. Je veux dire, alors le prétexte, c'est pas le prétexte, il y a eu un vrai traumatisme le 7 octobre, mais je dis rien ne peut justifier un génocide. Et moi, je répète toujours, c'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas eu beaucoup de génocides depuis une cinquantaine d'années. Je veux dire, on a eu le Rwanda, par exemple, mais le Rwanda, c'était loin, il n'y avait pas d'image. Là, on a, c'est une avocate qui disait, c'est la première fois dans l'histoire qu'on voit un génocide filmé en direct par les victimes. Et il faudrait ajouter qu'il est filmé en direct par les bourreaux qui se glorifient sur les réseaux sociaux des crimes qu'ils commettent. C'est quand même, il y a une population israélienne qui vit en dehors du monde, et il faut la forcer, je dirais, à mesurer qu'est-ce qui est en train de se passer et les crimes qui sont commis en son nom.
Oui, c'est super important de rappeler qu'effectivement, ce n'est pas juste le gouvernement de Netanyahou, mais que les mots sont beaucoup plus profonds.
C'est un des problèmes, c'est que tout est réduit à Netanyahou. On a vu avec la reconnaissance par les pays européens et un certain nombre d'autres pays de la Palestine, il y a une unanimité de la classe politique. Ce n'est pas si demain on change Netanyahou, ça changera quelque chose. Bon, Netanyahou est un voyou et un criminel, mais je dirais, la politique menée par les différents gouvernements successifs a été exactement la même. Quand survient le 7 octobre, Netanyahou est au gouvernement depuis même pas un an, mais l'année précédente, il y a eu un gouvernement dit de l'opposition actuelle qui a fait la guerre à Gaza, qui a continué la colonisation et qui n'a pas du tout changé quoi que ce soit. Donc, effectivement, il y a un consensus à la fois politique et un consensus populaire qu'il faut faire bouger. Et la seule manière de le bouger, c'est qu'il faut des sanctions, il faut que Israël paye le prix de ce génocide.
C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, cette impunité qui s'est construite au fil des ans, des décennies même, effectivement, leur laisse penser qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Moi, j'ai même l'impression qu'ils sont prêts, et dans les discours de Netanyahou, d'ailleurs, ça me fait assez sourire, parce que quand l'Occident reconnaît l'État palestinien, enfin, lui annonce officiellement, comme il l'a toujours fait, de toute façon, il n'y aura pas d'État palestinien. Et ça, c'est aussi une espèce de dichotomie intéressante de voir que les gouvernements occidentaux pensent que leur simple parole aux reconnaissances était un état de fait qui pourrait changer les choses, alors que l'autre partie, celui qui massacre au quotidien, le rit au nez depuis toujours et prend le monde d'ailleurs pour des imbéciles, mais comme si quelqu'un d'autre qui, a priori, était un Russe ou, peut-être un pays avec la peau plus foncée, je ne pense pas que ce genre d'humiliation permanente serait acceptée comme elles le sont avec la propagande israélienne, par exemple.
Non, c'est sûr. D'ailleurs, une des choses qui est intéressante, si on peut dire, dans la propagande israélienne depuis le 7 octobre, c'est la manière dont Israël se présente comme l'avant-garde de la défense contre la barbarie, contre les bronzés, en gros. Et c'est un vieux, Théodore Herzl, le fondateur du sionisme, disait, nous serons l'avant-garde, l'État que nous allons construire sera l'avant-garde de la lutte contre la barbarie asiatique. Et il y a chez Netanyahou quelque chose qu'il a compris, parce que ça correspond aussi à une évolution dans le discours politique en Europe notamment, avec l'idée d'une menace islamiste qui nous menace, etc. Et Netanyahou n'arrête pas de répondre, mais nous nous battons ici pour que les combats n'arrivent pas chez vous. C'est, nous sommes l'avant-garde de la défense contre la barbarie. Et ce discours, en plus, il s'accompagne, et c'est peu mis en valeur, je trouve, par les médias occidentaux et encore moins les dirigeants, c'est un discours messianique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec des gens qui disent ce qui s'est passé le 7 octobre, des rabbins et des dirigeants politiques, c'est bien parce que ça accélère la fin du monde, ça va accélérer la venue du Messie, et nous sommes en train de préparer la venue du Messie. Je veux dire, c'est des choses, je veux dire, on critique le Hamas, mais je veux dire, le Hamas, c'est, à côté de ça, c'est des discours modérés. Donc il y a réellement quelque chose, mais qui est, c'est-à-dire, je crois que Netanyahou a compris qu'il y avait là un levier que les gouvernements européens lui ont donné. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement français particulièrement a été si pro-israélien depuis le 7 octobre, avant aussi, mais c'est justement qu'il partage cette idée de la menace islamiste. On n'arrête pas d'avoir des lois contre le séparatisme, contre l'islam, on ferme des institutions musulmanes, etc., comme si c'était aujourd'hui un grand danger. Et donc, si l'islam est un grand danger, intérieur et extérieur, Israël est notre allié et ils se battent pour nous, entre guillemets. C'est le discours de Netanyahou.
Oui, ils vont même jusqu'à dire qu'ils sont les garants des valeurs occidentales. Alors, il faudrait regarder plus profondément ce que ça voudrait dire. Les valeurs,
oui, judéo-chrétiennes, ce n'est pas occidentales. Maintenant, ils envoient judéo-chrétiennes. Comme je dis toujours, la civilisation judéo-chrétienne, c'est une invention récente. Je veux dire, les centaines de milliers, les millions de juifs que nous avons tués en Europe doivent rigoler quand on parle de civilisation judéo-chrétienne. C'est inventé uniquement dans cette idée de lutte contre l'islam et de lutte contre les barbares.
Et je pense qu'Israël est prêt. Il voit bien qu'il commence à perdre la guerre de l'information et de l'opinion publique. Il y a eu un discours de Netanyahou qui disait aussi qu'il va falloir se préparer à vivre un petit peu sur nous-mêmes. Moi, je ne pense même pas que les sanctions seraient suffisantes pour mettre un terme au génocide. Dans quelle mesure une force internationale pourrait déployer éventuellement, comme les casques bleus à l'époque, une puissance de protection pour en tout cas faire passer l'aide humanitaire? Est-ce que ça, c'est quelque chose de crédible ou on est encore à des années-lumière de...
D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée que les sanctions ne marcheraient pas. Contrairement à ce qu'Israël dit, nous ne cédons jamais. Chaque fois qu'il y a eu des sanctions réelles, prises, y compris par les Américains dans les années 90, par exemple, pour forcer le gouvernement israélien à aller à la conférence de Madrid, Israël a cédé en 24 heures. Et si demain, les États-Unis, on peut rêver, arrêtaient les livraisons d'armes à Israël, la guerre s'arrêterait en 24 heures. Et si l'Union européenne gelait l'accord d'association, je ne dis pas que la guerre s'arrêterait en 24 heures, mais la population israélienne en paierait un prix très fort. Et je pense que ça amènerait des changements. Donc ça, ça me semble quelque chose d'important. Maintenant, est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de plus fort? C'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, comme il y a eu en 1950 concernant la Corée, qui permet de contourner le Conseil de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, franchement, les conditions ne sont pas remplies. Elle pourrait faire ça et dire qu'on envoie une force internationale, etc., mais ça me semble très, très difficile. D'autant, c'est important à souligner, si Israël dispose du soutien inconditionnel des États-Unis et d'un soutien très important d'un certain nombre de pays européens, même s'il est en train de s'éroder, il dispose aussi de la passivité du monde. Y compris la Russie et la Chine, qui ont d'excellentes relations avec Israël, n'ont fait aucune pression sur Israël au-delà des déclarations. Je ne parle pas évidemment du monde arabe. Donc je ne vois pas très bien quelle force internationale on pourrait déployer aujourd'hui en Palestine.
Oui, ça c'est problématique. Quand on entend le discours des Israéliens, en gros, c'est un discours génocidaire, mais avoué, assumé, qui dit... on doit les tuer d'abord parce que sinon c'est eux qui nous tueront. Est-ce que donc on entend une peur viscérale profonde? Est-ce que ça existe réellement? Est-ce que c'est simplement une figure rhétorique pour expliquer ce qui est inexplicable, ou est-ce que vous pensez qu'il y a réellement cette peur existentielle de dire il faut qu'on tue les enfants maintenant parce que sinon ils vont grandir, ça va devenir des terroristes et puis c'est eux qui vont nous tuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend dans toutes les bouches.
Il y a une peur réelle, je veux dire, qui est inscrite dans l'histoire israélienne, qui est sans doute liée aussi à la mémoire du génocide, mais qui est liée aussi à l'idée quand même que n'importe quel Israélien a, c'est que la création d'Israël s'est faite au détriment d'un autre peuple. Et cet autre peuple est toujours présent et donc il constitue une menace. J'étais très frappé au moment de la première intifada en 87-88. Un ami italien, un journaliste, m'avait demandé des conseils pour des contacts là-bas, je lui avais envoyé. Et quand il est revenu, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit alors, il me dit ce qui est étonnant, c'est que c'est les Israéliens qui ont peur et pas les Palestiniens. Et ça m'avait frappé, c'est-à-dire, c'est les Israéliens qui tiraient sur des enfants lançant des pierres, il y avait des chars de leur côté, ils avaient une armée ultra, ultra sophistiquée, et c'est eux qui avaient peur. Et je pense que c'est vrai, il y a effectivement une peur, mais bon, c'est un traumatisme, il faut le soigner, je dirais.
Oui, tout à fait. Là, il y a une responsabilité aussi de l'Occident, hein, d'avoir perpétré des atrocités, d'avoir dit plus jamais ça sans avoir vraiment fait le nécessaire pour soigner les maux, la haine et la terreur qu'on avait instillée dans le cœur de millions de personnes, en particulier les Juifs d'Europe. Et ça, c'est tragique, bien sûr, complètement tragique. Comment on peut guérir d'atrocité comme ça?
Je ne sais pas. Le court terme, c'est il faut d'abord arrêter les massacres. Ensuite, comment on va arriver? Ce qui rend quelque part optimiste, dans le sens où, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, c'est que sur la terre historique de Palestine, il y a en gros 8 millions de Juifs israéliens, 8 millions de Palestiniens. Et que c'est le grand succès du sionisme d'avoir créé l'État d'Israël, mais c'est son grand échec de ne pas avoir été capable, comme dans d'autres circonstances, comme en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande ou Australie, d'exterminer ou d'expulser toute la population. Et ça, personne ne peut contourner cette réalité. Et c'est ce qui rend les dirigeants israéliens fous, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment se sortir de cette situation. Alors, on voit bien à Gaza qu'ils veulent expulser, c'est-à-dire s'ils pouvaient se débarrasser de 2 millions de Palestiniens, ça les soulagerait, si je peux dire, mais on voit bien à quel point c'est difficile, et on voit bien à quel point la population palestinienne sur place résiste. elle est attachée à sa terre, elle est attachée à ses origines, elle est attachée à son identité. Donc, il faudra à un moment trouver une solution, je veux dire, qui ne pourra pas se faire d'ailleurs. Je veux dire, il faut, enfin, comment dire, c'est comme en Afrique du Sud, d'une certaine manière, la solution s'est faite aussi avec les colons et leurs descendants. Donc, il faudra trouver des solutions. C'est aux Israéliens, aux Palestiniens de la trouver, mais à l'étape actuelle, on est totalement en dehors de ça. C'est pour ça qu'on est totalement en dehors du débat sur un État, deux États, etc. Je veux dire, c'est complètement hors sol, quoi. La question primordiale, c'est d'arrêter les combats et d'arrêter les massacres.
Mmh. Je fais souvent le lien avec l'Holocauste, hein, puisqu'il y a une haine qui se déchaîne, une destruction et une extermination, à mon avis, qui a la même énergie, d'une certaine manière. Et je me demandais dans quelle mesure, même si l'Allemagne nazie avait peut-être vaincu, elle aurait pu perdurer. J'ai l'impression que comme l'énergie, c'est celle de la haine, qu'au bout d'un moment, quand on détruit l'autre, on se détruit soi-même. Et en ce sens, je pense qu'Israël s'est condamnée elle-même. Mais j'ai du mal à l'expliquer. Est-ce que vous avez aussi cette impression que on pourrait comme ça, ad vitam aeternam, vouloir la mort de l'autre sans en souffrir les conséquences? Parce que dès qu'un ennemi il est détruit, on va s'en créer un nouveau parce qu'on voit bien que ça n'a pas de fin.
Mais vous savez, à propos des ennemis, je dirais, ce qui est intéressant dans le discours israélien, disons depuis 50 ans, c'est à quel point les ennemis ont été chaque fois réinventés. C'est-à-dire d'abord c'était Nasser, le président égyptien, ensuite Sadat, celui qui va faire la paix avec Israël, qui a été traité d'antisémite, etc., etc. Ensuite, ça a été l'OLP, avec l'idée que c'était les nouveaux nazis, qu'on pouvait tuer leurs dirigeants. Ensuite, c'était le Hezbollah. Ensuite, il y a eu l'Irak de Saddam Hussein. C'est-à-dire, chaque fois, ils vont inventer un ennemi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont dans une course folle. C'est-à-dire, un des aspects quand même particuliers de cette guerre, c'est que c'est une guerre qui inclut tout le Proche-Orient aujourd'hui. C'est-à-dire, Israël est intervenu non seulement en Cisjordanie et Gaza, mais au Liban, en Syrie, au Yémen. Ils ont bombardé la flottille de la paix pour Gaza. Ils ont bombardé le Qatar. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a cette idée que la seule solution pour vivre en paix, c'est de détruire tout le reste du monde. En tous les cas, tout leur environnement. Et ça ne peut aboutir qu'à une guerre perpétuelle. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et évidemment, alimenter des haines, parce que les populations dans le monde arabe, et évidemment les populations palestiniennes, qui voient ce qui se passe, je veux dire, demain, l'idée de « on peut tuer n'importe quel Israélien » apparaîtra normale. C'est les milliers d'enfants qui sont aujourd'hui orphelins à Gaza, je veux dire, vous savez, il y a eu des informations, c'est des Américains qui ont dit que le Hamas avait recruter autant de gens de combattants qu'il en avait tué.
Même Macron l'a avoué là hier dans un discours en disant qu'il y en a certainement autant de membres du Hamas aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ans.
Oui, bien sûr, et de gens prêts à mourir. Vous avez vu votre famille massacrée, vous avez vu vos parents massacrés, etc. Je veux dire, l'idée de la vengeance est une idée dans ce contexte normal. Si vous voulez, le gouvernement Netanyahou engage son pays. Et c'est un pas supplémentaire par rapport aux politiques précédentes vers une guerre perpétuelle dans la région. Et ça, c'est effectivement très dangereux, y compris pour les Israéliens, pas seulement pour l'environnement arabe d'Israël.
Bien sûr. À force de se créer des ennemis, en fait, eh bien, on ne peut pas espérer la paix, certainement. Et puis, moi, il y a quelque chose d'autre que j'observe, c'est que même son allié principal, si celui sans qui Israël ne pourrait rien faire, c'est-à-dire les États-Unis, eh bien, on voit que même aux États-Unis, ce soutien inconditionnel est en train de chuter. On le voit bien sûr dans la jeunesse démocrate, mais on commence aussi à le percevoir de plus en plus, même chez les républicains. Et d'ailleurs, il y a une scission dans le groupe Trumpiste avec ce MAGA, Make America First. Et puis, il y en a beaucoup qui disent, ben là, tout ce qu'on fait, ce n'est pas MAGA, c'est MIGA, c'est Make Israel First. Et puis, du coup, je pense qu'au bout d'un moment, quand le protecteur, le papa, doit s'effacer avec tous les ennemis qu'on a créés, ben, on n'a pas une longue espérance de vie. Et je souhaite ça pour personne, mais je pense qu'à terme, cette fausse impunité dont Israël a profité ces décennies, eh bien, elle va un jour ou l'autre, elle ne peut faire autre chose que de se retourner contre elle-même. Et ça va très très mal finir. Alors c'est déjà, je dirais, quasiment le summum de l'indicible, hein, mais je vois pas comment ça peut s'arranger où tout le monde se tape sur le dos et puis oui on passe à autre chose, ça me semble impossible.
Non, c'est sûr que le soutien américain, enfin à la fois on a un soutien qui n'a jamais été aussi important du président Trump à la politique de Netanyahou, et pas seulement du point de vue militaire, du point de vue de la critique de tous les pays qui reconnaissent la Palestine, du point de vue de l'attaque contre la Cour pénale internationale. Je lisais ce matin dans la presse américaine que Trump va sans doute prendre des sanctions contre l'ensemble de la Cour pénale internationale et pour l'empêcher de fonctionner. Enfin, il y a un engagement affirmé qui n'a jamais existé de manière aussi forte. En même temps, il y a une évolution dans l'opinion publique, chez les démocrates notamment, où une partie notamment de la jeunesse démocrate reproche à son propre parti la manière dont il faut rappeler que c'est quand même la première année de génocide, c'était sous la présidence Biden, et que Biden n'a rien fait. Et puis il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'évolution de la communauté juive américaine, notamment dans la jeunesse, où maintenant une partie de la communauté juive est mobilisée de manière importante en faveur des Palestiniens. D'ailleurs, c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles on agite tellement l'antisémitisme, c'est-à-dire on agite la menace de l'antisémitisme au moment même où des parties importantes des communautés juives à travers le monde prennent position contre le génocide. Il y a une volonté de créer une espèce de sursaut nationaliste dans ces communautés juives. Je lisais qu'en Allemagne, il y a eu je ne sais plus combien de gens qui ont été inculpés pour apologie du terrorisme, je crois que la moitié sont juifs. Donc, voilà, il y a ces évolutions. Maintenant, ce n'est pas à court terme. Enfin, je veux dire, ça ne se traduira pas à court terme aux États-Unis en termes politiques. Mais ça peut changer et il faut espérer que ça change.
Je vous ai déjà entendu dire que Gaza était d'une certaine manière le centre de l'avenir du monde. Moi, je ressens ça aussi, qu'il y a une quête de liberté qui n'appartient pas qu'aux Palestiniens là-bas, mais c'est celle qui devrait appartenir à toute personne qui s'estime avoir un petit peu, la conscience de l'autre. Est-ce que vous pensez ça et pourquoi la Palestine et la situation particulièrement qui arrive aujourd'hui est si cruciale pour le futur en fait de l'humanité?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord là, c'est parce que ce qui se joue à Gaza, c'est l'avenir du droit international. C'est-à-dire si effectivement, malgré les décisions de la Cour internationale de justice, malgré les décisions de la Cour pénale internationale, on laisse faire ce génocide, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit international. Et qui demain, on pourra reprocher à la Russie d'avoir son comportement en Ukraine, mais, je veux dire, les Russes rigoleront, et l'ensemble du monde rigolera, parce que c'est... moi, j'avais fait un article dans mon diplomatique après l'invasion russe de l'Ukraine. La majorité des pays ne soutenait pas cette invasion, mais la majorité des pays disaient bah, « écoutez, c'est une affaire européenne » et ne venez pas nous parler du droit international alors que vous le violez, Israël, les États-Unis l'ont violé en Irak en 2023, en 2003, il y a eu plein d'autres violations. Mais là, on arrive au summum de la contradiction entre le discours sur le droit international et la réalité des pratiques politiques occidentales. Donc, en ce sens-là, c'est très important. C'est-à-dire, si à l'issue de ce conflit à Gaza, il ne se passe rien, que les génocidaires ne sont pas punis, etc., je pense que demain, si la Chine envahit Taïwan, si un grand pays attaque le voisin, plus personne n'aura la légitimité de les contester ou de les dénoncer. Donc ça, c'est une des choses importantes. L'autre élément important, c'est que, évidemment, ce qui ressort avec la Palestine, c'est aussi le fait que c'est, on peut dire, la dernière colonie. C'est-à-dire le monde du 19e siècle et du 20e siècle a été marqué par la colonisation, puis à partir de la seconde moitié du 20e siècle, la décolonisation. Aujourd'hui, le dernier, même s'il y a d'autres, nous on connaît, on a aussi la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais enfin, la dernière grande question coloniale qui n'a pas été réglée, c'est la question de Palestine. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez des paysans latino-américains, vous avez des manifestations en Afrique, en Asie, parce que tout le monde se sent concerné par ça. C'est-à-dire, c'est effectivement la question de l'héritage, si on peut dire, du colonial. Et puis, une des choses qui me frappe quand même dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est que justement, il se fait au nom du droit international. C'est-à-dire, c'est ça qui le rend si fort. C'est-à-dire que ce que les gens demandent, c'est pas vive la victoire du peuple palestinien ou vive, bon, c'est appliquons le droit international, appliquons les résolutions de l'ONU. Et ça, je crois que c'est une très grande force. Et ça donne une grande légitimité à ce mouvement.
Vous êtes expert donc, du Moyen-Orient, avec ce média aussi Orient 21. J'ai l'impression que souvent, un des problèmes qu'on a en Occident, c'est de pouvoir sortir de cette pensée ethnocentriste qui fait voir les Arabes comme des étrangers alors qu'ils sont chez eux, etc. Comment analyser la réaction des pays musulmans, arabes, environnement de la Palestine par exemple, et puis qu'est-ce qu'on a du mal moi j'ai du mal à comprendre comment leur réaction, parce que Israël ne s'en cache pas non plus. Il parle du grand Israël, donc ça veut dire que la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, tout ça, après, ça sera leur tour. Et pourtant, j'entends un petit peu des mots comme ça qui montent parfois, mais de nouveau, en termes de pratiques, de mesures et de politiques, j'ai l'impression que tout le monde se couche. Est-ce qu'ils ont peur des États-Unis? Enfin, voilà, quelles sont les logiques un peu là-derrière qui se cachent?
Bon, c'est vrai que l'absence de réaction du monde arabe est assez frappant, du monde musulman, malgré tous leurs efforts. Je dis, il faut rappeler, parce que ça c'est un argument sans arrêt avancé par les Israéliens, ils ne nous reconnaissent pas, ça fait des années que le monde arabe et le monde musulman a dit très clairement qu'il était favorable à une paix fondée sur deux États, avec un État palestinien dont Jérusalem-Est était la capitale. Après le 7 octobre, il y a eu un sommet de l'Organisation de la Conférence islamique, de la coopération islamique, pardon, il s'appelle maintenant comme ça, et de la Ligue arabe. Ils ont créé une délégation commune pour avancer cette solution. Donc, c'est important de dire qu'il y a une disposition à une solution de compromis, disons. En même temps, il y a des gouvernements qui sont faibles, qui sont souvent des dictatures, qui dépendent de l'aide américaine, qui dépendent des armes envoyées par les Occidentaux, etc., et qui ont très peur de leur propre peuple. C'est-à-dire, il faut rappeler que le mouvement qui a renversé le président Moubarak, il a commencé en 2008 au moment des grandes manifestations de solidarité avec Gaza. Et tous les dirigeants arabes savent que s'ils permettent ces grandes manifestations de soutien à Gaza, ça risque de se retourner contre eux. C'est des régimes faibles qui sont des dictatures. Donc voilà. Et puis il y a après les pays, les pays du Golfe qui eux ont des moyens financiers importants, qui, on l'a vu au moment de la tournée de Trump dans la région, essayent d'acheter Trump en gros, c'est-à-dire y compris en lui offrant un avion, y compris en lui offrant des contrats d'armement, etc. Il y a eu une chose qui m'a intéressé, c'est le secrétaire d'État américain de Joe Biden, dont je ne me souviens plus le nom, est allé.
Blinken.
Oui.
Anthony Blinken.
Oui, Anthony Blinken est allé voir Mohammed Ben Salman. Ça devait être en décembre ou 2023. C'était un moment où encore on discutait d'un éventuel paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et Blinken demande à MBS, à Mohammed Ben Salman, alors qu'est-ce que vous pensez de la Palestine? Et il lui répond, mais ce que je pense, ce n'est pas très important. Ce qu'il pense, c'est mon peuple. Et on sait que l'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie, mais elle est obligée de tenir compte de l'état de son opinion, qui est effectivement très mobilisée sur la Palestine, parce qu'elle voit en direct toutes les images de massacres. Et donc, on a des pouvoirs arabes qui, comment dire, sont à la fois tenus en partie par leur population et en même temps ont très peur de tout bouleversement, quoi. Mais comme je le disais, il y a aujourd'hui une crise de tout le système international parce que, comme j'ai dit, il y a peu de pays qui ont pris vraiment des sanctions contre Israël, même ceux qu'on appelle le Sud global, même la Russie et la Chine, etc. Ils n'ont rien fait. Ils ont très bonnes relations avec Israël. Donc, il y a le danger, si vous voulez. Dans les années 50-60, quand il y avait le mouvement des non-alignés qui se battait contre le colonialisme, pour la décolonisation, etc., ils étaient porteurs d'un certain nombre de valeurs. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que l'opposition au camp occidental se fait au nom des intérêts de chacun, c'est-à-dire la Russie défend ses intérêts, la Chine défend ses intérêts, purement nationaliste, sans plus aucun grand principe. Et ça, effectivement, c'est dangereux parce que ça présage d'un monde qui est géré par les lois de la jungle, quoi.
Absolument. Et là, il y a un wake-up call avec l'attaque quand même d'Israël avec l'aide américaine, évidemment, qui disait qu'il ne savait pas, mais sur le Qatar.
Le ça, Qatar, c'est oui. C'est
une surprise, oui. Je pense, pour le monde arabe qui essaye de faire des cadeaux, d'acheter la paix, etc., et qui voit qu'en fin de compte, voilà.
Et, donc, et ça a eu une conséquence directe, c'est l'accord entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, un accord de défense mutuelle. Vous savez que le Pakistan est un pays nucléaire, et il y a eu un accord stratégique de défense entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. C'est une manière de dire aux Américains qu'il y a des alternatives possibles, des solutions de rechange possibles au parapluie américain, même si, bon, à mon avis, ça ne va pas très loin, mais quand même, c'est-à-dire, c'est, si vous voulez, l'attaque contre le Qatar est, pour moi, le signe que ce gouvernement israélien devient fou, c'est-à-dire qu'il ne prend pas du tout en compte, c'est-à-dire, les gouvernements israéliens successifs ont toujours mis en priorité leurs intérêts nationaux, mais ils tenaient compte plus ou moins des intérêts américains. Là, ils font comme s'il n'y avait pas d'intérêt américain, comme si leurs actions ne pesaient pas sur les intérêts américains. Donc, on a vu, après cette attaque contre le Qatar, Trump a dit qu'il n'y aura pas d'autres attaques, la presse américaine a dit qu'il était très mécontent, etc., mais ça reste encore purement verbal, quoi. Mais je pense qu'il y a une inquiétude à l'égard de ce gars qui est totalement incontrôlé, dont il faut rappeler d'ailleurs qu'il est à la tête d'une puissance nucléaire, d'une arme nucléaire. C'est-à-dire, on est vraiment dans une situation, on parle de la folie de Kim Jong-il ou d'autres dirigeants du monde, mais il faudrait s'inquiéter de ce que les Israéliens sont capables de faire avec l'arme atomique.
Ce qui peut d'ailleurs en partie expliquer peut-être cette non-action des voisins aussi. L'arme atomique, c'est quand même quelque chose qui est très dissuasif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'option Samson.
Oui.
Parler de ça. Alors, c'est dans la doctrine israélienne. Si un jour son existence est en danger, qu'ils pourraient se permettre, en phase finale, avec leur bombe atomique.
C'est une chose qui a été discutée, notamment au moment de la guerre de 1973 avec l'Égypte. Mais si vous voulez, le problème, c'est que là, on est. La notion de menace, Israël se sent menacé par tout le monde. Donc, ils ont attaqué l'Iran alors qu'il y avait des négociations entre les Américains et l'Iran sur la question du nucléaire. Ils ont poussé les Américains à rompre l'accord qu'ils avaient signé pour le contrôle de l'arme nucléaire. C'est un pays fou. C'est-à-dire, c'est un pays, à un moment, on parlait les Américains dénonçaient les États voyous. Israël est un État voyou aujourd'hui. Qui n'est même pas contrôlé par les Américains. C'est même à certains moments, ça échappe au contrôle américain.
Il est possible. Alors, voyou, c'est encore gentil. Terroriste, parce que on utilise très facilement le terme terroriste pour même des petites factions, puis après, on l'établit même à toute une race, en l'occurrence les Arabes. Donc, moi, je pense que là, on peut dire que non seulement c'est un État voyou, mais c'est un État aussi terroriste, puisqu'il utilise clairement des méthodes pour faire peur à tout le monde tout le temps. Et là, même récemment, ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures de rétaliation, je crois comment dire en français.
Rétorsion.
De rétorsion, merci, contre la France, la Grande-Bretagne, parce qu'ils reconnaissaient notamment la Palestine. Enfin, voilà, ils reculent de rien. Alors, ouais,
Moi,
peut-être quelque
si vous
chose
voulez, j'ai
à
toujours
critiquer
eu
à
des
moi.
réticences à l'utilisation du terme terroriste, parce que d'abord, en droit international, ça n'est pas défini, et donc je préférais de dire, bon, c'est quand un mouvement commet des actes terroristes, c'est-à-dire enfin, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Si, et comme je le dis, si tuer des civils innocents, c'est une action terroriste, à ce moment, effectivement, l'État d'Israël est un État terroriste. Mais bon, encore une fois, je veux dire, là, on est un peu dans la polémique. La question réellement, c'est que le terrorisme a été utilisé depuis 2001 en particulier. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'oublie, c'est-à-dire, cette idée de guerre contre le terrorisme, c'est Netanyahou, alors qu'il n'était pas du tout Premier ministre, qui l'a invoqué dans les années 80, à un moment où d'ailleurs, ça visait essentiellement l'OLP. Le Congrès national africain et l'Union soviétique. C'était ça la menace terroriste. Mais il l'a, je dirais, adapté au goût du jour aujourd'hui avec la menace islamiste, l'Iran, etc., etc. Mais c'est dire, quand vous dites nous luttons contre une organisation terroriste, c'est une manière de dire nous luttons contre le mal. Et avec le mal, on ne peut pas discuter. Ça,
Des bouches.
dans l'histoire, ça n'existe pas. Je veux dire, le FLN algérien a été qualifié de terroriste, on a fini par négocier avec lui. Beaucoup les groupes sionistes ont été qualifiés de terroristes par les Britanniques, ils ont fini par le négocier, etc., etc. Donc, pour moi, c'est une espèce d'aveuglement. Mais encore une fois, si terroriste, c'est de tuer des civils innocents, Israël est un État terroriste.
Il y a beaucoup cet amalgame aussi de dire, quand on critique l'État d'Israël ou le sionisme, de évidemment traiter d'antisémitisme, la haine du juif. Vous êtes juif, et moi j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, parce que l'État d'Israël vous force à vous affilier avec un État bah justement qui tue sans vergogne, qui massacre, qui extermine. Je pense que aussi, pour moi, c'est des politiques qui sont dangereuses pour les Juifs dans leur ensemble. Comment vous qualifiez cette chasse aux sorcières antisémites à tous ceux qui diraient ou qui remettraient en question cette question, enfin ce foyer juif en Palestine, territoire habité depuis toujours.
Oui, c'est bon, évidemment, c'est une question difficile. Il faudrait revenir sur l'histoire du sionisme. Comme Maxime Rodinson, qui est un orientaliste connu, lui-même juif, l'avait dit, le sionisme a été une des options possibles pour les juifs face aux persécutions. Il y en a eu d'autres qui étaient l'intégration, il y en a eu d'autres qui étaient l'adhésion à des mouvements révolutionnaires. Il y a eu le Bund, qui était un mouvement autonomiste juif en Europe, enfin en Europe centrale, dans l'ancienne Russie, qui lui ne voulait pas du tout, il voulait une autonomie culturelle avec le yiddish comme langue. Enfin, il y a eu mille et une réponses. Et au 19e siècle et au début du 20e siècle, la vraie réponse des juifs à la persécution, ça a été l'immigration aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu la terre promise pour les Juifs, mais c'était vrai pour les Irlandais, etc., c'était les États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui est problématique, il y a plein de choses problématiques dans cette utilisation de la question juive, et parce que d'un côté, on a un discours qui est de dire, vous mettez en danger les Juifs en critiquant Israël, et en même temps, nous avons Israël qui dit, nous représentons tous les Juifs du monde. Je veux dire, il y a une contradiction, et je pense effectivement qu'Israël aujourd'hui attise l'antisémitisme. Je veux dire, c'est évident que quand il y a des soldats franco-israéliens qui vont se battre dans l'armée génocidaire à Gaza, je pense que demander à des gens des quartiers où ils habitent de faire la différence entre Israéliens, Juifs, sionistes, etc., me semble effectivement un défi difficilement surmontable. Mais il y a autre chose aujourd'hui qui me semble important dans les communautés juives. J'ai parlé tout à l'heure de la montée de forces d'opposition à la guerre, des fois très radicales, des fois moins radicales, mais qui disent « Israël ne parle pas en notre nom ». Je crois qu'il y a aussi pour les Juifs une question de quel est l'héritage du judaïsme. C'est-à-dire, j'ai un souvenir comme ça, c'était dans les années 80, je travaillais au monde diplomatique à l'époque, et je défendais déjà les positions actuelles sur la Palestine, et j'ai un journaliste de Tribune juive qui est venu m'interviewer, l'interview est jamais passée évidemment, mais et bon, il me dit « Mais est-ce que vous êtes juif ?» Je lui ai dit, ma mère est juive, mon père est juif, bon, moi, je n'ai pas de relation. Et il me dit, vous êtes religieux? Je lui ai dit, non, évidemment. Est-ce que vous vous sentez solidaire d'Israël? Non. Et alors, il m'a dit, mais vous n'avez rien de juif. Et, ma réponse a été de dire, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Je suis l'héritier aussi d'une tradition juive qui a été une tradition internationaliste, qui a été une tradition de solidarité avec tous les combattants de la liberté, et vous représentez ici une tradition du judaïsme qui est une tradition ethno-nationaliste, contre laquelle d'ailleurs des gens comme Einstein ou Hannah Arendt avaient déjà mis en garde. Donc il n'y a pas une tradition juive, mais c'est important de ne pas laisser non plus la tradition juive, enfin l'idée de l'héritage juif, à Israël. Pour moi, Israël n'est pas l'héritier des Juifs du monde, il représente une partie de ces Juifs, des Juifs qui sont installés là-bas, mais c'est tout. Et je crois que c'est important de combattre cette idée que, moi j'ai tendance des fois à dire, Israël prend en otage les Juifs du monde, puisqu'elle nous rend solidaires de choses avec lesquelles on n'est absolument pas solidaires.
Pourquoi cette opinion apparemment raisonnable et mesurée que vous avez, surtout en tant qu'ancien rédacteur en chef du monde diplomatique, rien que ça, n'a pas sa place sur les plateaux? Et là, je voudrais aborder un peu la responsabilité des médias, parce que je pense qu'un génocide n'arrive pas par hasard comme ça. Il y a plein de... C'est un puzzle avec beaucoup de pièces, et les médias sont une pièce de la tolérance ou de l'impunité qui a mené jusqu'au génocide, qui a d'ailleurs pas commencé le 8 octobre, hein, le nettoyage ethnique des Palestiniens, évidemment, c'est en décennies qu'il faut le compter, a commencé évidemment par 1948. D'ailleurs, vous êtes né cette année-là en Égypte. Voilà, quid, vous qui avez un pied dans ce monde des médias quand même, comment analyser le comportement des médias jusqu'à aujourd'hui est en train de changer?
Alors, bon, quand on discute des médias, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a les médias et la question israélo-palestinienne, si on peut dire, et les médias en général. Il y a une dérive du monde médiatique avec le poids de personnalités comme Bolloré, des personnalités d'extrême droite qui rachètent les médias. Je pense que ça, ça a une... Et ça n'a pas de rapport direct avec le. Ça a des conséquences sur la manière dont ils peuvent couvrir la Palestine, mais je crois que c'est vraiment une menace pour nos sociétés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des sociétés démocratiques dans lesquelles les principaux médias sont contrôlés par les puissances de l'argent. Donc, ça, c'est un aspect. Maintenant, sur le comportement des médias dans cette guerre, moi, j'ai tendance, et je le dis de manière assez brutale, que les médias ont joué. Un rôle de complice du génocide. On peut pas simplement dire c'est la liberté de chacun de parler comme il veut. D'abord, en fait, comme je l'ai dit, en fait, c'est pendant des mois et des mois, il n'y a eu qu'une opinion dans les médias occidentaux. Alors, peut-être, je fais une nuance là que je dis toujours pour qu'on sache. En France et en Europe, globalement, on peut tout dire, même si depuis le 7 octobre, il y a des gens qui ont été inculpés d'apologie contre le terrorisme. Mais le monde diplomatique peut vivre, Orient 21 peut développer des articles très critiques sur Israël-Palestine. Mais le problème, c'est quel poids ça a. Et je raconte toujours la même anecdote d'une période de la au moment de la perestroïka, c'est-à-dire au moment où Gorbatchev était au pouvoir, où le pouvoir soviétique commençait à changer, un ami soviétique m'avait raconté cette anecdote que j'avais trouvée tout à fait parlante. Il me dit, nous avions une délégation de journalistes soviétiques qui va aux États-Unis pour étudier la liberté de la presse et des médias. Donc ils font le tour de tous les médias. Et puis ils reviennent Washington ou New York pour faire le. Ils se réunissent avec, je sais pas, c'était le syndicat des journalistes, et il y a quelqu'un qui leur demande, alors qu'est-ce que vous avez pensé de nos médias? Et il y a un journaliste soviétique qui dit, mais c'est extraordinaire chez vous. Il n'y a pas de censure et tout le monde pense pareil. Et je pense que quelque chose, il y avait ça, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que pendant des mois et des mois, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Moi, je donne mon exemple, mais bon, je ne veux pas non plus. France Inter, France Culture, pratiquement tous les grands médias, mais je parle même d'État, je n'ai eu aucune invitation, aucune. Et les quelques fois où j'ai eu une invitation, ça a été pour être décommandé le lendemain. Bon, mais il y a eu d'autres voies, je veux dire, on ne peut pas, justement, c'est un des avantages de la démocratie, c'est qu'il y a quand même d'autres voix qui arrivent à s'exprimer de temps en temps. Et puis, il y a eu depuis, en gros, pour la France, depuis la visite de Macron en Égypte et à Rafah, il y a eu un changement. D'ailleurs, comme je dis, j'ai été étonné du fait que les médias qui sont soi-disant indépendants et penser que la visite et les déclarations qu'il avait faites à cette époque assez critiques de ce qui se passait à Gaza avaient entraîné un changement des médias. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez, ce changement des médias. Mais ça ne supprime pas tout ce qu'on a permis après le 7 octobre, qui était en gros, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont le droit de se défendre. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était vraiment, c'était un pogrom antisémite, c'était... quasiment pire que Hitler, etc., etc. Donc on a créé cette atmosphère. Voilà. Donc on a une responsabilité. Maintenant, c'est à chacun de l'assumer. Hein.
Oui, tout à fait. Un jour, évidemment, il y a des comptes qu'il faudra rendre. En tout cas, c'est ce que j'espère, si justice doit un peu se faire. Si on recentre un peu la discussion sur la France, donc il y a le pouvoir médiatique, mais aussi le pouvoir politique. On voit que quasiment tous les partis, à l'exception peut-être de LFI, a aussi pris une position. Alors, c'est peut-être même étonnant, hein, mais ceux qu'on attendait les plus antisémites, finalement se rallie aussi facilement à Israël comme ça. Il y a le pouvoir de l'argent aussi là derrière. Comment analyser les postures politiques devant ce que je considère comme étant aussi un raz-de-marée qui aura énormément, à mon avis, de conséquences dans le futur, dans les urnes aussi, auprès de tous ceux qui auront d'une manière ou d'une autre rien fait ou supporté l'insupportable.
Alors, sur la France, une des choses qui est quand même, il faut le dire, parce que ce n'est pas dit beaucoup, les Républicains, qui est le parti de droite héritier du gaullisme, qui a été le plus pro-israélien en violation totale avec les positions prises depuis le général de Gaulle. Je pense qu'aujourd'hui, les Républicains dénonceraient de Gaulle comme un antisémite. Je veux dire, et ça, personne ne l'a souligné. Maintenant, effectivement, ce qui a changé, enfin, pas changé parce que c'était déjà en cours dans les années précédentes, c'est on a pu constater que en gros l'extrême droite est pro-israélienne. C'est pas quelque chose de nouveau. En 67 par exemple, au moment de la guerre israélo-arabe, un certain nombre de partis d'extrême droite avaient vu dans la victoire israélienne contre les Arabes, la revanche de la guerre d'Algérie, etc., etc. Mais là, ça a atteint un stade sans précédent. C'est-à-dire, en gros, pratiquement toute l'extrême droite aujourd'hui est pro-israélienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas antisémite. Et ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on voit d'ailleurs dans la mouvance MAGA aux États-Unis. Il y a plein de gens qui sont antisémites et en même temps qui soutiennent Israël parce que c'est l'Occident blanc, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le 7 octobre a marqué le moment où la classe politique a entériné le fait que le Rassemblement national était un parti comme les autres, notamment dans la grande manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu, je crois, au mois de novembre 2023. Ce qui était intéressant, c'est que Cette manifestation, appelée par la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat, aurait pu être contre le racisme et l'antisémitisme. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait uniquement contre l'antisémitisme parce qu'ils savaient que s'ils faisaient une manifestation contre le racisme, le Rassemblement national ne participerait pas. Alors après, à cette manifestation, LFI a refusé de participer, à mon avis, ils ont eu raison. D'autres forces de gauche ont participé. LFI n'a pas participé, ils ont eu raison. D'autres forces de gauche ont participé, je pense qu'elles ont eu tort, mais bon. Mais c'est la première fois où on entérinait clairement le fait que l'extrême droite fait partie, comme on dit en France, de l'arc républicain. Et ça reflète quelque chose. Orient 21, nous avons écrit plusieurs articles sur les collusions entre l'extrême droite, y compris l'extrême droite d'Europe de l'Est, totalement antisémite, et Netanyahou. C'est-à-dire, du moment où on a des partis qui soutiennent Israël, le fait qu'ils soient antisémites ne les intéresse pas. L'important, c'est qu'ils soutiennent Israël. Et ça, c'est effectivement une évolution importante et qui montre la convergence aujourd'hui. Pourquoi l'extrême droite est sur cette position? Parce que, pour elle, il y a un danger islamiste, il y a un danger musulman, pas islamiste, et Israël est un rempart contre ça. Et le fait, je dirais, c'est l'ennemi principal. Moi, j'ai dit, et demain, l'extrême droite, quand elle sera débarrassée des musulmans, elle s'occupera des juifs. Mais ça, le gouvernement israélien ne veut pas le voir.
Oui, ça ne rentre pas dans sa carte, dans son plan. Très intéressant. On a aussi vu en Angleterre une énorme manifestation aussi de la droite récemment, avec des centaines de milliers de personnes, qui étaient assez impressionnantes aussi. Il y a un peu une scission, hein, parce que là, par exemple, l'Italie, hier, a fait grève générale, a fermé les 17 plus grandes villes d'Italie, ont tout fermé, écoles, transports publics, c'était très impressionnant. Et d'un autre côté, si on regarde l'Angleterre, par exemple, chaque pays est différent, arrive aussi à soulever des masses. Alors, ils n'étaient pas directement pro-israéliens, mais quand même, il y avait quelque chose, comme vous l'avez rappelé, qui allait dans ce sens-là, comme avec le...
Oui, mais en même temps, si vous voulez, au Royaume-Uni, il y a eu d'énormes manifestations de soutien aux Palestiniens, comme il n'y en a pas eu en France, je veux dire, comme il y en a eu en Italie. Donc, attendez, j'ai un problème d'ordinateur. Une seconde, je vais le brancher.
S'il n'y a plus de batterie, et puis qu'on voilà.
Non, c'est bon, là, c'est bon. Il y a effectivement des mouvements qui sont très différents. Mais c'est vrai que les mouvements anti... Ça ne coïncide pas forcément. C'est quelqu'un qui manifeste contre les immigrés, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est pro-israélien. Mais ça peut aussi coïncider, en tous les cas, au niveau des forces politiques. Et aujourd'hui, la force politique de Nel Farage, qui représente l'extrême droite, est une force politique pro-israélienne. Ça ne veut pas dire forcément que les gens qui manifestent avec lui le sont, parce qu'il y a dans ses forces aussi des sentiments antisémites et racistes. Et vous savez, je ne sais plus où je lisais ça, quand on est raciste contre les juifs ou les arabes, on est rarement raciste seulement contre eux, on est raciste contre tout le monde. C'est, le racisme, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais enfin bon, ça c'est un autre départ. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement sur les questions d'immigration, mais ça ne coïncide pas vraiment totalement avec la question de la Palestine. Ou si ça coïncide, c'est parce que les gouvernements l'utilisent. Je l'ai dit, en France, par exemple, c'est évident que depuis 2 ans et les lois sur le séparatisme, Emmanuel Macron, qui au départ n'avait pas de position sur les questions de l'islam très claire, qui était plutôt d'une laïcité normale en France, est devenu de plus en plus le défenseur d'une laïcité complètement fermée sur elle-même, complètement anti-musulmane, et a permis des attaques sans précédent contre les communautés musulmanes. Je veux dire, les fermetures de lieux de culte, les dissolutions d'associations, etc., etc. Et donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les dirigeants européens regardent avec admiration, si je peux dire, ce que fait Israël. C'est parce qu'ils se disent, voilà, ils luttent eux contre, enfin, ils mettent ça sous le terrorisme islamique, mais en fait, ils luttent contre les musulmans.
Oui. Antisionisme aussi, vous êtes juif. Est-ce que, je dis ça parce que Emmanuel Macron a encore répété qu'il était tout fier. Il y a une journaliste qui lui demandait, et puis pour montrer patte blanche, il avait dit non, j'ai bien défini dans la loi française que antisémitisme et antisionisme avaient été presque similaires d'ailleurs. Est-ce que vous, vous dites antisioniste? Que veut dire ce terme pour vous?
D'abord, je ne sais pas si Macron dit que c'est dans la loi française, mais c'est faux. Je veux dire, il n'y a pas une loi, je ne crois pas qu'il y ait un texte de loi qui identifie antisionisme et antisémitisme. D'ailleurs, je pense que je ne suis même pas sûr que ça passerait devant le Conseil constitutionnel, parce que l'antisionisme, c'est une opinion politique, on peut être pour ou contre. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme. Donc ça, c'est, je ne crois pas qu'il y ait ça. Mais il y a eu chez Macron, il a eu tellement peur d'avoir reconnu l'État palestinien que maintenant il en rajoute. Il a fait des réunions avec la soi-disant communauté juive, comme s'il y avait quelque chose qui… Lui qui dénonce le communautarisme musulman, il encourage une espèce de communautarisme juif. Il a fait des déclarations sur le Hamas qu'il n'avait jamais faites. Enfin bon, il y a une volonté de donner des gages. Il a dit qu'il voulait aller en Israël. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il peut aller faire en Israël, sinon de rencontrer quelqu'un qui est inculpé pour crime de guerre et crime contre l'humanité, c'est-à-dire Netanyahou. Donc, il y a eu cette manière de faire. Maintenant, sur l'antisionisme, oui, moi, je suis antisioniste, c'est-à-dire je ne pense pas que les Juifs forment un peuple et surtout, si vous voulez, le problème du sionisme, le sionisme est né à la fin du 19e siècle dans les conditions qui étaient un peu, je dirais, celles du développement du mouvement des nationalités. Les Serbes, les Croates, tout le monde demandait l'indépendance, la fin des empires, etc., etc. De ce point de vue, c'était un nationalisme comme les autres, avec tous les défauts qu'ont tous les nationalismes, c'est-à-dire une espèce de fermeture, mais bon, ça a représenté une demande légitime d'autodétermination. Le problème du sionisme, c'est pas ça. Le problème du sionisme, c'est qu'il dit, cet État, nous allons le construire en Palestine, là où il y a déjà un autre peuple. Et de ce point de vue, c'est une forme de colonialisme. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas être, sioniste. En même temps, si vous voulez, des fois, je trouve que dans l'utilisation du terme sionisme, il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire, j'ai lu un bouquin d'Alain Soral, qui est un penseur de l'extrême droite française, sur le sionisme. Alors, je lis le livre pour voir de quoi il parle. Et comme j'ai un Kindle, je peux consulter mot par mot. Et alors, il n'y avait aucune définition du sionisme. Et c'est-à-dire quand on tapait sionisme, le mot n'existait pas, mais il y avait sioniste. Et chaque fois qu'il parlait sioniste, en fait, il voulait dire juif. Donc, il y a une utilisation de l'antisionisme qui est une forme, dans certains cas, d'antisémitisme. En même temps, je dirais, bon, il y a eu beaucoup de comparaisons entre le sionisme et le nazisme, etc. Ça me semble excessif et ne pas représenter une réalité. Je raconte toujours que je suis allé dans les territoires occupés palestiniens, j'ai visité la ville d'Hébron, qui est, vous savez, c'est un cauchemar parce qu'il y a 500 colons juifs qui rendent la vie insupportable aux 200 000 Palestiniens qui y vivent. Et le gars qui m'a fait visiter, il avait une kippa, il se disait sioniste et il était un des dirigeants d'une association qui s'appelait Breaking the Silence, qui organiser les anciens soldats qui avaient été dans les territoires occupés. Bon, voilà, donc, pour moi, c'est pas l'équivalent d'un nazi, qu'est-ce que je veux dire. Mais le sionisme, aujourd'hui, comme idéologie, fondamentalement, c'est une idéologie coloniale, et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'évolution de la situation sans bouleversement de cette idéologie, c'est-à-dire, de même qu'il ne pouvait pas y avoir d'évolution en Afrique du Sud sans évolution de la communauté blanche de sa vision. Ça ne veut pas dire qu'elle a arrêté d'être raciste le jour où il y a eu l'indépendance de l'Afrique du Sud, mais il y a un certain nombre de choses qui ne se disent plus, qui ne se font plus. Et le fait que le sionisme prétend que les Juifs sont les seuls propriétaires légitimes de la terre de Palestine, ce qui ne peut évidemment aboutir qu'à des catastrophes.
Oui, je pense que tant qu'on ne reviendra pas sur cette notion-là, ce sera difficile de sortir de la problématique. Et je voulais ajouter qu'il y a plus de sionistes chrétiens, principalement évangéliques américains, mais partout dans le monde, que de sionistes juifs.
Oui, le sionisme est une invention chrétienne. Hein. Vous savez, au départ, avant Herzl, etc., les premiers personnes qui ont pensé au retour des Juifs en Palestine, c'était des théologiens chrétiens. Alors, c'était lié à une lecture de la Bible qui veut que le Messie ne reviendra que quand tous les Juifs seront regroupés en Palestine, etc. Mais c'est effectivement un des fondements importants. Et aux États-Unis, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas parler de lobby juif. Il y a un lobby pro-israélien qui a, je dirais, deux pieds. Un, c'est les évangélistes, et de l'autre, c'est une partie de la communauté juive. Voilà, ces chrétiens évangélistes jouent un rôle très, très négatif dans toute l'histoire, et on l'a vu là encore avec l'assassinat de ce militant d'extrême droite et la cérémonie que Trump a faite en son honneur, à quel point elle était marquée par le discours religieux évangéliste.
Oui, perspective intéressante à suivre. Et donc, pour conclure cet entretien, donc, reconnaissance de maintenant presque la totalité des pays du monde. La Suisse ne l'a pas encore fait, le Japon non plus, l'Italie non plus, donc il y a encore pas mal de pays. Donc je pense que chacun des ressortissants de ces pays doivent pousser pour ça. Mais quels sont les prochains pas? On a parlé des sanctions tout à l'heure. J'ai l'impression que pas grand-chose vient spontanément des gouvernements. Il y a peut-être une ou deux exceptions, notamment avec l'Espagne. Mais c'est la pression populaire. Et que doit-elle demander en priorité? J'ai mes idées, mais voilà, la suite de la lutte.
Vous avez raison. Je veux dire, il faut demander des sanctions. Elles peuvent être différentes et les rapports de force dans chaque pays ne sont pas. La plus immédiate et incontestable, c'est l'arrêt de toute coopération militaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui.
En Suisse, on vient d'acheter des drones qui, on apprend, ne fonctionneront pas en hiver, donc en Suisse, dans les montagnes, parce qu'il n'y a pas de système. Donc, ça faisait des années, on avait même voté là-dessus, on a perdu des millions et des millions pour des drones israéliens, et en fait, ils ne vont pas marcher la moitié du temps.
Et pas de vente d'armes et pas d'achat d'armes non plus. C'est-à-dire, l'Espagne a résilié un contrat de 700 millions de dollars, ce qui n'est pas rien, avec Elbit, qui est une société de construction israélienne. Donc, ça, c'est une priorité, parce que tout le monde comprend qu'au moment où il y a un génocide, il ne faut pas développer des relations militaires. Mais ensuite, il y a les mesures que peuvent prendre les États. Et là, par exemple, la Belgique, comme l'Espagne, ont décidé, et ça me semble vraiment très important parce que c'est une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que les services que leur consulat accorde aux citoyens israéliens qui vivent dans les territoires occupés seront réduits. C'est-à-dire que la Belgique et l'Espagne ne considèrent plus normal que les Juifs qui vivent dans les territoires occupés soient des citoyens normaux. Un ami m'avait suggéré cette mesure que je trouvais extrêmement positive, c'est que tous les Israéliens qui vivent dans les territoires occupés soient soumis à une demande de visa, comme les Palestiniens. Voilà une mesure qui peut être, qui est logique, dans la mesure où nous considérons tous que c'est des territoires occupés, il ne faut pas leur accorder de privilèges spéciaux. Et puis, il y a les mesures, encore une fois, de la coopération scientifique. Je veux dire, l'Europe joue un rôle très important dans le développement du système israélien, de la recherche israélienne scientifique et technique, dont l'essentiel est une recherche militaire ou à but militaire. Donc là aussi, il y a des choses qui peuvent être faites. Et puis, il y a ce qu'on peut faire, on le voit avec les boycotts qui ont lieu, les boycotts de conférences, de ne pas aller en Israël à des conférences quelles qu'elles soient aujourd'hui. Enfin, il y a de choses qui peuvent se faire, qu'elles soient au niveau des États ou au niveau du mouvement citoyen.
Et comprendre qu'à travers ce commerce, l'Occident en profite aussi parce que Gaza, c'est aussi un laboratoire d'essais pour des armes totalement inhumaines. Tout à fait, oui. Même pas les mots, pour lequel en fait on expérimente pour voir si c'est efficace, pas efficace, pour ensuite envahir les marchés évidemment internationaux. Donc, c'est notre complicité est marquée, est marquante. Et puis, merci d'en avoir fait l'état des lieux aujourd'hui, Alain Grech. On a pour
Merci à
habitude
vous.
toujours laisser peut-être un petit espace pour peut-être qu'on vous questionne tout le temps sur un peu les mêmes questions. Y a-t-il d'autres sujets? J'ai vu que je n'étais pas au courant, mais ce média Afrique 21, c'est vrai que l'Afrique, on n'en parle pas souvent. Hein, c'est un
Oui,
peu.
absolument, absolument. Si vous voulez, dans la foulée d'Orient 21, on a commencé, bon, une partie de l'Afrique fait partie de notre aire d'influence, si je peux dire, d'Orient 21, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Et puis on a commencé à écrire sur le Sahel aussi, parce que ça avait des conséquences sur l'Algérie, le Maroc, etc. Et dans ces contacts, on est entré en contact avec des journalistes qui suivaient l'Afrique et on s'est rendu compte que la situation des médias africains, enfin sur l'Afrique et sur le Proche-Orient, n'est pas du tout la même, mais qu'il n'y avait pas de médias indépendants ou peu de médias indépendants en Afrique, peu de voix indépendantes qui n'étaient pas financées par tel ou tel gouvernement, et nous a semblé important, en plus un continent très important en termes, pas seulement démographiques, en termes culturels, etc. Et petit à petit, on a commencé à créer sur le même modèle un journal qui essaye de rendre compte de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a, bon, on a parlé du le Soudan, c'est effectivement c'est une catastrophe. Peut-être je dis un mot sur le Soudan parce que c'est quelque chose à laquelle on est sans arrêt. Pourquoi vous parlez de la Palestine mais pas du Soudan? C'est vrai qu'on ne parle pas assez du Soudan, c'est vrai que ce qui se passe est horrible. La différence fondamentale entre le Soudan et la Palestine, c'est qu'au Soudan, nous n'armons pas les génocidaires. L'Occident ne soutient en fait pas le gouvernement central ni les forces d'opposition.
On les pille, on les pille, on vole leurs ressources, mais au-delà, on installe souvent des dictateurs, mais au-delà de
Non,
ça,
non,
voilà.
bien sûr, bien sûr. Et puis ils ont une autonomie. C'est pas des gens sur qui, enfin, on a essayé pendant des années de faire pression sur le gouvernement al-Bashir, qui était la dictature avant. Ça n'a pas marché. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, c'est ce qui se passe est horrible. Et c'est vrai que il y a effectivement des choses à faire, notamment sur le plan humanitaire. Et on voit bien que vraiment, les mesures que Trump a prises de réduction de l'aide à l'étranger ont des conséquences ont des conséquences mortelles sur des centaines de milliers de gens. Donc il faut parler de ça, mais il faut parler aussi. Alors, une des choses qu'on essaye de faire, d'ailleurs aussi bien Afrique 21 qu'Orient 21, c'est que cette région, ce n'est pas que des régions de guerre, c'est aussi des régions de développement, c'est aussi des régions culturelles, il y a une production culturelle, il y a une production cinématographique, de chansons, etc. Il faut aussi, et de romans, évidemment, très importants, aussi bien africains que arabes. Et il faut aussi essayer de rendre compte de cette réalité. C'est pas, comment dire, c'est pas seulement des trous noirs de guerre et de massacres.
Non, et souvent d'ailleurs, c'est une objection qu'ont les sionistes. Ils disent, ouais, mais pourquoi vous focalisez toujours sur la Palestine? Vous parlez jamais du Soudan, du Congo, du
Mais
Myanmar,
on
par exemple.
parle, je veux dire, c'est
Mais on en
le.
parle en plus. Et puis après, ben, moi, en général, je leur pose une question parce que je connais un petit
Ouais.
peu ces sujets. Et puis on voit qu'eux, en fait, n'en ont aucune idée.
Non,
C'est souvent
bien sûr.
rhétorique.
Bernard-Henri Lévy, je crois,
Rhétorique.
est allé récemment je crois que c'est au Congo ou au Soudan, je ne sais plus même. Il n'en avait jamais parlé avant. C'est simplement pour dire je vais au Congo et regardez, personne n'y va et je suis le seul. Bon, ça, c'est de la propagande. Mais encore une fois, ce qui se passe au Congo comme ce qui se passe au Soudan, c'est une tragédie.
Oui,
Et
il n'en reste pas moins qu'il faudra en parler plus.
voilà.
Et donc, on peut suivre vos médias. Et d'ailleurs, je mettrai les liens sous la description de cette vidéo pour aller sur vos médias. Qu'est-ce qui vous pousse en avant? C'est une question qu'on pose à tous nos, dès que j'y, quand j'y pense, à tous nos invités. Quelle est votre source de motivation pour faire ce que vous faites, ce que vous avez fait peut-être toute votre carrière? J'ai lu un petit peu votre CV un petit peu plus tôt. Je sens qu'il y a un idéal, il y a des convictions, il y a des valeurs. Est-ce que vous arrivez à mettre un mot sur cette source ou ces sources d'inspiration qui font ce que vous faites?
Écoutez, bon, on vit un monde particulièrement sombre par rapport au monde dans lequel j'ai grandi et où nous étions portés par un espoir d'un monde meilleur. C'était la fin du colonialisme, la fin de la guerre du Vietnam. On avait l'impression que le monde allait dans le bon sens. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis porté par ça, mais je suis porté par une idée qui, je peux résumer, bon, en un terme qui est la résistance, c'est-à-dire l'idée qu'il faut résister à toutes les injustices, à toutes les humiliations, que le droit à la résistance est le droit de tout le monde, et que cette résistance peut prendre beaucoup de formes, ça peut être tout à fait pacifique ou militaire ou autre, mais que c'est important. Et c'est important d'aller, je dirais que j'ai toujours été, l'impression quand même d'avoir été globalement à contre-courant. Je pense qu'il faut être à contre-courant. C'est quand les idées dominantes, en général, sont fausses d'abord, elles sont dangereuses, et que résister à ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, même si, encore une fois, le monde qui nous entoure n'est pas particulièrement lumineux.
Non, et ça c'est aussi un des cadeaux des Palestiniens, qu'on a plus de facilité à reconnaître ceux qui, comme vous, luttent pour la justice, pour la libération, et on se l'a, nous, résistants, et c'est magnifique. Merci infiniment, Alain Gresh, pour ce temps que vous avez mis à notre disposition, en espérant que ce ne sera pas la dernière fois. Si en tout cas vous passez en Suisse, faites-moi signe, je préfère toujours avoir les invités en personne. Oui, bien sûr. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on pourra se revoir une prochaine fois, en tout cas.
Parfait. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Merci à tous. Ils étaient plus de 318 à nous suivre. Abonnez-vous. Et puis, à la prochaine. Je n'ai plus qu'à dire ciao. Bye bye.
Au revoir. Au revoir.